Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 8h.
On a envoyé à la population française le message que l'État français n'est pas en mesure de préserver leurs droits à obtenir justice. Et ça, c'est particulièrement grave.
Il y a 5 ans, un djihadiste ouvre le feu dans un bar de Bamako au Mali, tuant 5 personnes, dont un Français. Il ne sera peut-être jamais jugé. Selon nos informations, il aurait été remis en liberté il y a 15 jours en échange de la libération des otages, dont Sophie Pétronin.
La France face à l'épidémie de coronavirus. En attendant de nouvelles mesures, c'est le couvre-feu qui s'applique depuis hier soir dans les deux tiers du pays.
9 jours avant la présidentielle aux États-Unis, les deux candidats multiplient les meetings. Le démocrate Joe Biden a reçu hier soir le soutien de son ancien président Barack Obama.
Et puis retour gagnant pour le 15 de France. Les Bleus sont imposés face au Pays de Galles hier soir. Bon signal avant la reprise des 6 nations. Ça sera dans une semaine.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et on commence donc ce journal, Marguerite, avec une absence, un box vide.
Mardi prochain doit s'ouvrir au Mali le procès de l'attentat de Bamako qui avait fait 5 morts en 2015, 5 morts dont un Français. L'auteur présumé de l'attaque a été arrêté et doit donc être jugé cette semaine. Il le sera si les autorités n'ont pas perdu sa trace.
Oui, car selon nos informations, ce djihadiste ne serait plus en prison. Il aurait été libéré il y a 15 jours en échange des otages, Soulaïma Cissé et Sophie Pétronin. Chloé Triomphe.
Fawaz Ouldameida, Ibrahim Diss de son nom de guerre, ferait effectivement partie des 200 djihadistes relâchés en toute discrétion et sous une fausse identité, selon nos informations. Et à quelques jours de l'ouverture du procès, la famille de la seule victime française, Fabien Guyomard, et la FENVAC qui l'accompagne, font face à un silence gêné des autorités sur les conditions de la tenue de ce procès, comme l'explique Sophia Seco, directrice générale de l'association.
Le silence est inquiétant. Si on a accepté de le libérer, on a envoyé à la population française, aux ressortissants français qui voyagent encore aujourd'hui en Afrique, le message que l'État français n'est pas en mesure de préserver leurs droits à accéder à la manifestation de la vérité et à obtenir justice. Et ça, c'est particulièrement grave, sachant que c'est exceptionnel qu'on ait un auteur en face de nous. On l'a dans peu d'affaires de terrorisme.
À Paris, tout est pourtant prévu pour une retransmission des audiences pour la famille, sous réserve du feu vert malien. Mais aucune autorité ne veut s'avancer à confirmer l'absence du principal accusé. En France, une source diplomatique indique seulement que cette négociation a relevé de la seule responsabilité malienne.
Les informations de Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Ce procès, cette immense incertitude, il en sera peut-être, sans doute, question à Bamako dans la journée, puisque le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sera sur place. Il est en déplacement au Mali jusqu'à demain.
En France, les restrictions augmentent à mesure que l'épidémie de coronavirus se propage. Ce sont désormais 2/3 des Français qui sont placés sous couvre-feu.
Interdiction de sortir après 21h et jusqu'à 6h du matin sous peine d'amende. Cela concerne des grandes villes, mais pas seulement. Le département du Calvados, par exemple, en Normandie, est aussi concerné. Résultat, les touristes qui voulaient profiter de Deauville ont dormi un peu plus tôt que prévu. Reportage de Caroline Baudry.
On avait prévu de se faire un super plateau de fruits de mer et on va se faire une super pizza aux fruits de mer.
Sur les planches de Deauville, déserte, dans un restaurant à moitié vide, c'est un apéro vue mer pour la famille de Lionel et leurs amis. Mais pour dîner, il fallait être ici avant 19h, pas exactement ce que ce Parisien avait prévu pour son séjour à Deauville.
On s'était dit, on va faire un petit week-end tranquille à Deauville pour décompresser et en plus, il n'y a pas couvre-feu, donc on va pouvoir profiter correctement de tout ça. La situation sanitaire en a décidé autrement.
En face, les enfants jouent sur la plage, 1 heure top chrono, avant que les deux familles ne rejoignent leur hôtel respectif. Des retrouvailles expéditives pour Lilou, qui retrouve à peine Lionel et sa famille.
On prend un petit verre, on se dépêche, on fait vite. C'est un peu dommage. Avec des amis qui nous sentent très chers, on disait, bon bah, on va faire des petites retrouvailles à deux vite. On va pas se plaindre, il pleut pas, on est en bonne compagnie, c'est ce qui compte. Mais c'est dommage pour le reste, quoi.
Ici, la station balnéaire est méconnaissable, les touristes sont rares et masqués et l'emblématique casino a baissé son rideau. Deauville, Caroline Baudry, Europe 1.
Le couvre-feu n'a pas encore produit ses effets, les chiffres sont inquiétants. On a battu hier un nouveau record avec plus de 45 000 contaminations en 24 heures.
Pour permettre à l'exécutif de prendre les mesures adéquates, les députés ont validé hier la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Les sénateurs se pencheront à leur tour sur ce texte mercredi.
Et au-delà de l'urgence sanitaire, il y a l'inquiétude de nombreux chefs d'entreprise.
Des milliers de patrons, petits ou grands, qui se demandent bien comment payer leurs salariés. Dans le Lot-et-Garonne, un système permet de donner un peu d'air à ces chefs d'entreprise. Ils peuvent se prêter des salariés afin d'éviter les licenciements. Stéphane Place.
On voit bien cette courbe de chiffre d'affaires, une chute vertigineuse.
Pour ce sous-traitant aéronautique de Marmande, la crise, c'est aussi une réduction d'effectifs. CSA est passé de 57 à 33 collaborateurs. Pour limiter la casse, le patron Jérôme Creuset a tout de suite adhéré à ce dispositif de prêt de salariés.
Il garde un contrat de travail avec CSA, tous les avantages, ancienneté, primes de CSA, mais il travaille dans une autre entreprise. Le salaire de la personne est payé par l'entreprise utilisatrice.
Parmi les salariés prêté par CSA, Ludovic Rowe, 44 ans. En août, il a rejoint les ateliers d'un fabricant de portes de placard implanté près d'Agen.
Le chômage partiel, ça commence à devenir compliqué. Chez CSA, j'étais opérateur régulier sur les commandes numériques. Puis là, maintenant, je suis à l'acier. C'est pareil, c'est une commande numérique, mais totalement différente de l'usinage.
Un renfort précieux, dit le directeur général d'Optimum, Jean-Luc Guéry, d'autant que le fabricant agenais de portes de placard doit répondre, lui, à un marché en forte croissance.
Je trouve que cette notion de solidarité entre les entreprises qui vont bien et des entreprises comme les nôtres qui ont besoin de quelque chose localement doit pouvoir se jouer.
Une dizaine de salariés sont concernés aujourd'hui par ce dispositif dans le département. C'est ce qu'indique la CCI qu'il a mise en place avec l'aide de la préfecture et de la directe. Agen, Stéphane Place, Europe 1.
Un mot de l'épidémie chez nos voisins. L'Espagne devrait à son tour décréter l'état d'urgence sanitaire dans la journée. Et puis la Belgique a décidé d'avancer d'une heure le couvre-feu qui démarre donc à 22h. Les activités culturelles et sportives seront interdites à partir de demain.
Europe 1, 8h06. Et la suite du journal de Marguerite Lefebvre, une promesse que fait ce matin Jean-Michel Blanquer aux enseignants. Le ministre de l'Éducation promet un cadre plus clair s'agissant des questions de laïcité.
Huit jours après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire à Conflans-Sainte-Honorine, Jean-Michel Blanquer s'exprime dans le journal du dimanche. Il s'est entretenu avec David Revaud-Allonne.
La leçon que Jean-Michel Blanquer en tire, c'est qu'effectivement, il faut retrouver une règle d'airain. Je le cite, les parents ne se mêlent pas de pédagogie. Et toute agressivité d'un parent vis-à-vis d'un professeur doit être suivie d'une réaction de l'institution. Ce que Jean-Michel Blanquer annonce pour la rentrée de lundi prochain, c'est une rentrée en trois temps. Un premier temps où les adultes resteront entre eux et se prépareront. Le deuxième temps sera pédagogique. Les professeurs face aux élèves réaffirmeront les principes de la République et de l'école. Et puis, troisième temps, ce sera plus un temps d'hommage avec une minute des silences. Et c'est ce qu'il nous révèle, la lecture de la fameuse lettre aux instituteurs et aux institutrices de Jean Jaurès que les élèves pourront entendre.
David Revaud-Allonne, rédacteur en chef du service politique au JDD.
La laïcité à l'école priorité du quinquennat Mitterrand en 1981. Jack Lang, ancien ministre et actuel président de l'Institut du Monde Arabe, sera avec nous dans 10 minutes.
En matière de laïcité, de lutte contre le séparatisme, l'exécutif prépare un projet de loi pour le mois de décembre, un texte qui ne plaît pas et c'est peu dire au président turc. Recep Erdogan a mis en cause hier la santé mentale d'Emmanuel Macron. Paris, dans la foulée, a décidé de rappeler son ambassadeur à Ankara.
Aux États-Unis, Donald Trump lui a pris de l'avance. Il est allé voter hier en Floride.
9 jours avant l'élection présidentielle, Trump s'est rendu masqué dans un bureau de vote de Palm Beach en Floride pour voter par anticipation. Puis il est retourné sur la route. Nouveau meeting hier pour le président américain ainsi que pour son rival, Joe Biden. Ils mettent leur dernière force dans la bataille, Benoît Clerc.
Oui, à 9 jours du scrutin, les deux candidats redoublent d'efforts pour convaincre les indécis, même si plus de 51 millions d'Américains ont déjà voté par correspondance. Joe Biden a reçu hier le renfort de Barack Obama en Floride, où il est moins bien placé qu'Hillary Clinton en 2016, et l'ancien président n'a pas mâché ses mots. Je savais que Donald Trump ne ferait pas la même politique que moi, mais j'espérais, pour le bien du pays, qu'il montrerait un peu d'intérêt et ferait le job sérieusement. Et ça n'a pas marché. Il n'a fait aucun effort, n'a aidé personne, à l'exception de ses amis et de lui-même. Et il a conduit sa présidence comme un reality show. De son côté, Donald Trump continue les rassemblements de masse. 3 États différents pour la seule journée d'hier et un seul adversaire qu'il continue de minimiser.
Covid. Évidemment, le 4 novembre, vous n'en entendrez plus parler. Covid, s'il te plaît, ne va pas voter.
Les chiffres sont cependant cruels pour lui, mais inflexibles. 83 000 nouveaux cas quotidiens depuis une semaine et le cap des 225 000 morts a été franchi cette nuit. Aux États-Unis, Benoît Clerc, Europe 1.
Et on apprend que le chef de cabinet du vice-président américain, chef de cabinet de Mike Pence, a lui aussi été testé positif au Covid.
C'est ce qu'on appelle une rentrée réussie. 7 mois après leur dernier match, les rugbymen français nous ont fait très plaisir hier soir.
Et oui, ils se sont imposés 38 à 21 face au Pays de Galles. Victoire, alors dans un stade de France totalement vide en raison du huis clos, mais victoire pleine de promesses, Axel May.
Dans un stade de France sans spectateurs, le speaker tente en vain de mettre de l'ambiance à chaque essai inscrit. Mais si le stade sonne creux, le spectacle est là. Malgré une mauvaise entame de match, cueillie à froid par les Gallois, les Bleus sont en effet menés 10-0 avant de réagir. Le troisième ligne, François Cross.
Le match aurait pu basculer dès l'entame et on a eu la force de caractère et la solidarité pour se dire les choses, rester calme et repartir de l'avant. Donc c'est une belle preuve encore de l'état d'esprit de ce groupe.
5 essais inscrits par les Français, dont un doublé d'Antoine Dupont et un Romain Ntamack impeccable dans son rôle de buteur. Fabien Galthié, le sélectionneur, n'oublie pas les supporters.
J'espère qu'on a apporté un peu de bonheur, un peu de sourire à ces millions de supporters qui ne peuvent pas jouer au rugby, qui ne peuvent pas venir au stade, qui doivent rester chez eux.
Après cette rentrée prometteuse, les Bleus vont maintenant se tourner vers la fin du tournoi Destination. Ce sera face à l'Irlande samedi prochain, toujours au Stade de France. Et toujours sans public.
Axel May du service des sports d'Europe 1. 2 résultats de foot pour vous signaler les victoires du PSG et de Marseille hier. Match comptant pour la 8e journée de Ligue 1.
Enfin, qu'on aime ou pas les jeux vidéo, on le connaît forcément. Le plombier à la moustache bien fournie, à la salopette bleue. Je parle bien sûr de Super Mario.
Mario qui a presque 30 ans et qui revient aujourd'hui dans une nouvelle version du jeu Mario Kart. Une version un peu plus intrusive que les autres, puisque là on sort de l'écran pour atterrir directement dans votre salon. Clément Le Saffre a fait le test pour nous.
La promesse de Mario Kart Live Home Circuit est alléchante. Cette fois, le circuit, c'est votre salon. Ça se présente sous la forme d'un kit. À l'intérieur, un kart avec Mario au volant, sorte de voiture téléguidée, 4 portiques en carton et un jeu à télécharger sur la Switch. Le principe est simple, vous disposez les portiques au sol chez vous de manière à former un circuit et grâce à une caméra située sur le kart, la console reconnaît les portiques et les utilise pour tracer un parcours virtuel. C'est là que la réalité augmentée entre en jeu. Sur l'écran de la Switch, cette technologie vient plaquer sur votre circuit fait maison des éléments virtuels, un décor de lave ou de glace, des adversaires pour faire la course et les célèbres boîtes à cadeaux pour envoyer bananes et carapaces rouges. Et le résultat est très réussi. Voir sa maison transformée en circuit de course virtuelle a quelque chose de fascinant, d'autant que la technologie est très fluide et l'image de bonne qualité. Notez quand même que pour s'amuser à fond, mieux vaut avoir un bel espace. Nintendo recommande une surface de 3 mètres sur 3 pour installer le circuit.
Le test signé Clément Le Saffre pour Europe 1.
Vous avez joué ?
Non.
Vous avez pas fait le
test ? Mais mon salon est peut-être pas assez grand. J'ai pas encore fait le test.
Je crois que Clément nous invitait tous à venir d'ailleurs à voir,
allez,
un peu, à le tester.
On va s'en tester.
Merci, c'était le journal de Marguerite Lefebvre.